Chers amis, bonjour. Pour notre sixième leçon de ce petit cours sur Saint Paul, nous sommes donc le lundi 15 mars. Vous vous souvenez que lors de la première leçon, nous avions une introduction générale à Paul. Nous avions eu l'occasion de parcourir les deux lettres aux Thessaloniciens, très probablement les premières lettres de Paul. Et nous avions vu que la perspective de l'attente du jour du Seigneur était fort marquée. Dans la première aux Thessaloniciens, selon une tonalité plutôt d'action de grâce et d'exhortation, dans sa seconde partie. Dans la deuxième, une tonalité plus sévère d'avertissement contre des dangers qui pouvaient menacer la communauté, mais en même temps, l'exhortation, l'encouragement était toujours bien présent. Voilà pour ces deux lettres, dont un des aspects, la perspective de la venue du jour du Seigneur et la question de la résurrection étaient amorcées et vont être déployées davantage dans la lettre que nous allons parcourir aujourd'hui, la première lettre aux Corinthiens. Souvenez que la fois passée, à la fin de la leçon, j'avais introduit d'abord à cette lettre. Nous avions regardé un peu la page 16 de votre dossier pour la mise en contexte avec une carte géographique et des informations recueillies notamment du texte des Actes. Et on pouvait en retenir que la première lettre aux Corinthiens a été écrite sans doute lors du troisième voyage apostolique de Paul, son deuxième grand périple, au cours duquel il va écrire du reste toutes celles qu'on appelle les grandes épîtres pauliniennes, et sans doute vers l'an 55-56, plus tard, probablement de la ville d'Éphèse. Et puis que plus tard, dans son parcours, il écrira d'autres lettres, dont la deuxième aux Corinthiens, mais les deux étant de toute façon rédigées entre deux séjours à Corinthe, le premier fondateur lors du premier voyage, et le second qu'il y fera et qu'il annonce ici. Nous avions pris la mesure de l'importance de la ville de Corinthe, stratégique du point de vue apostolique, parce que c'est une ville de croisement, de carrefour, de brassage, et aussi du fait que ce qui s'y passe, au point de vue de la variété des idées religieuses, des idées philosophiques, la variété pas toujours édifiante des mœurs, risquait de mettre en péril la jeune communauté chrétienne de Corinthe, et on voit bien que les sujets traités dans la lettre reflètent la préoccupation pour Paul de fortifier cette jeune communauté dans le contexte difficile où elle évolue. Pour mesurer l'importance que revêt une prise de conscience du contexte, je vous lis un petit passage, un petit exemple qui est à mon avis parlant, un petit passage de l'ouvrage de Michel Quesnel, Paul ou les commencements du christianisme. Et notamment, à un moment donné, il opère une mise en contexte intéressante, dont je vous lis deux pages. C'est à la page 44 de son petit ouvrage. Ce qui est devenu dans l'Église, la messe ou la célébration eucharistique, s'appelait à l'époque de Paul le repas du Seigneur. On le prenait dans des maisons particulières, car les églises bâtiments n'existaient pas encore. Il ne se limitait pas à une célébration rituelle, mais le rite était intégré à un véritable repas, au cours duquel le président de la table bénissait le pain et la coupe, comme Jésus lui-même l'avait fait lors de la scène le soir du jeudi saint. Mais les choses ne se passaient apparemment pas à Corinthe comme elles auraient dû se passer. C'est ainsi que saint Paul écrit dans la première aux Corinthiens. Et là, il nous cite le passage du chapitre 11. « Je n'ai pas à vous féliciter, vos réunions et vous faire progresser vous font du mal. Il y a parmi vous des divisions, et quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte l'un a faim, tandis que l'autre est ivre, etc. » Donc, des dérèglements dans la manière de célébrer la scène du Seigneur. Quesnel continue, commente alors, « Précipitation, égoïsme, gloutonnerie, ivresse, Que se passait-il donc? Comment, dans une communauté nouvellement gagnée à l'Évangile, pouvait-il y avoir tant de désordre? La documentation fournie par l'archéologie est dans ce domaine très éclairante. C'est là la connaissance du contexte qui peut importer. Elle permet de mieux connaître les conditions matérielles dans lesquelles vivaient les communautés chrétiennes et de se rendre compte que la simple organisation matérielle pouvait favoriser de telles déviances. Il y a des divisions, on ne s'attend pas pour manger. Effectivement, puisque les églises bâtiments n'existaient pas encore, on se réunissait dans des maisons particulières appartenant aux chrétiens les plus riches, ceux qui possédaient des habitations assez grandes pour contenir quelques dizaines de personnes. Mais quelques dizaines de personnes, cela ne fait pas tous les chrétiens de la ville qui devaient être, 3 ou 4 années après le début de l'évangélisation, au moins plusieurs centaines. Autrement dit, c'est une vue de l'esprit que de parler de la communauté de Corinthe. Le singulier ne convient pas, il faudrait dire les communautés, car il y en avait plusieurs. Celles qui se réunissaient chez un tel, celles qui se réunissaient chez tel autre, etc. En tout, sans doute une dizaine de lieux différents situés dans différents quartiers de la ville, ce qui ne favorisait pas l'unité. Mais ce n'est pas tout. Réunir quelques dizaines de personnes chez soi ne permettait pas de les rassembler toutes dans la même pièce. Corinthe, détruite par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, avait été reconstruite 100 ans après, vers l'an 44, grâce à un édit de réconciliation accordé par Jules César. Les maisons de notables étaient construites à la manière romaine. Les pièces donnaient sur une cour centrale, partiellement couverte, l'atrium, dont une partie d'espace était occupée par un bassin destiné à recevoir les eaux de pluie. Une quarantaine de personnes pouvaient, en se serrant, tenir dans cette cour assise sur des nattes. Mais il existait aussi une salle à manger, le triclinium, meublée de 8 ou 9 banquettes sur lesquelles on mangeait allongé à la manière romaine. Que se passait-il donc lors des réunions communautaires? Les habitudes sociales des Corinthiens ne sont pas tombées du jour au lendemain du fait de leur conversion au christianisme. Le propriétaire de la maison continuait à recevoir ses amis devenus chrétiens dans la salle à manger, tandis que les autres, moins fortunés, s'entassaient dans l'atrium. La nourriture qu'il fournissait était certainement meilleure et plus abondante que les provisions apportées par les gens de conditions plus modestes. Et en outre, comme ses amis étaient des fonctionnaires ou de gros commerçants, ils pouvaient arriver plus tôt, dès 3 heures de l'après-midi, l'heure habituelle où l'on invitait pour un banquet. Dans l'atrium, au contraire, les employés ou les esclaves arrivaient quand ils avaient terminé leur travail, c'est-à-dire beaucoup plus tard. La description que Paul dresse de la situation se comprend alors beaucoup mieux. Il y a des divisions dans le groupe qui se réunissent chez un tel, on ne s'attend pas pour manger, l'un enfin tant qu'il dit que l'autre est ivre. Que va faire l'apôtre pour tenter de redresser la situation? Essentiellement rappeler la tradition du Seigneur, autrement dit le récit d'institution eucharistique tel qu'on le rapportait dans l'église où lui-même l'avait entendu, celle de l'église d'Antioche de Syrie, etc. Et ça nous vaut quand même, dans la première aux Corinthiens, le plus ancien récit de l'institution eucharistique. Mais voilà, j'ai lu ce passage à titre d'exemple, comme quoi connaître les conditions historiques dans lesquelles tel type de rassemblement pouvait avoir lieu alors à Corinthe peut aider. On n'est pas obligé de souscrire à 100% à ce qu'il dit, mais je trouve que c'est quand même fondé dans des découvertes archéologiques et pertinent. C'est un exemple au passage pour compléter ce que j'ai pu dire du contexte. Alors nous avions pris une première connaissance de parcours d'ensemble de la lettre, et vous vous souvenez que apparaissaient mis en évidence les 4 premiers chapitres plus doctrinaux consacrés à une méditation sur le mystère de la croix. On va voir à la suite de quoi ce sujet surgit dans la tête et le cœur de Paul, et puis à l'autre extrême de la lettre, au chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection. Et qu'entre les deux étaient traités des sujets d'éthique chrétienne, ou bien les questions relatives au culte, comme ce que je viens d'évoquer autour du chapitre 11, concernant le repas du Seigneur. Alors, nous allons aborder, si vous le voulez, les 4 premiers chapitres de la lettre. Je vous invite à en avoir le texte sous les yeux. Nous allons d'abord lire l'adresse et la salutation comme d'ordinaire. Suivez-le dans votre texte, c'est peut-être le tome, la Bible de Jérusalem, hostie, que sais-je. Moi, je le prends dans une traduction littérale, que vous allez trouver, mais que vous identifierez clairement au passage. Donc je commence la lecture de la première aux Corinthiens. Paul, appelé pour être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'église de Dieu, celle qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés pour être saints, avec tous ceux qui en appellent au nom de notre Seigneur Jésus, en tout poste, en tout lieu, le leur, le nôtre. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'adresse habituelle, on voit l'insistance sur le fait qu'ils ont été déjà sanctifiés dans le Christ Jésus au verset 2 et qu'ils sont appelés à être saints. Et puis, Paul aide les Corinthiens à comprendre qu'ils font partie d'une communauté chrétienne plus large avec tous ceux qui en appellent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout poste, en tout lieu. Donc là, il y a une mention spécifique dans cette adresse-là qui rappelle aux Corinthiens qu'ils font partie d'un corps plus large. Tous ceux qui en appellent, on joue sur la même racine, appelés à être saints, tous ceux qui en appellent, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir que ce nom de Seigneur Jésus-Christ est important. Il y a en arrière-fond un passage du prophète Joël qui insiste sur le fait que c'est le nom du Seigneur, leur Dieu, qui va être porteur de salut. Et on va retrouver l'expression ici un peu plus loin dans l'action de grâce que nous allons aborder après cette adresse relativement classique, hormis les deux points que j'ai soulignés, l'appel à la sainteté et la communion avec l'Église qui se trouve ailleurs aussi. L'action de grâce. « Je rends grâce à mon Dieu en tout temps au sujet de vous, pour la grâce de Dieu, celle qui vous fut donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en tout vous fûtes comblés en lui, en toute forme de parole et en toute forme de connaissance, selon que le témoignage du Christ fût affermi en vous, ou chez vous, en sorte que vous n'êtes en besoin en aucune forme de don de grâce. Vous qui attendez comme promis la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui justement vous affermira jusqu'à la fin. Vous qui n'êtes pas susceptible d'être appelé en accusé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de foi, le Dieu par qui vous fûtes appelé, en vue de la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà l'action de grâce. Quelques points d'insistance spécifiques. Vous voyez que la mention de l'appel, surtout au verset 8 et 9, continue. Vous n'êtes pas susceptible d'être appelé en accusé, littéralement dans le texte grec, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez été appelé au contraire à la sainteté. Et il est digne de foi, se rappelle, le Dieu par qui vous fûtes appelé, en vue de la communion de son Fils Jésus-Christ. De nouveau, l'insistance sur l'expression complète et solennelle « notre Seigneur Jésus-Christ ». Elle est apparue dans l'adresse au verset 2, à tous ceux qui en appellent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez qu'elle revient ici, au verset 7, « Vous qui attendez comme promis la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » La perspective, évidemment, de sa manifestation finale, c'est ça qui a derrière ces mots. La révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, au verset 8, qui n'êtes pas susceptible d'être appelé en accusé au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, uniquement, c'est toujours le jour ultime de sa venue, le jour par excellence. Et de nouveau, l'expression complète, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, au verset 9, Dieu qui vous a appelé en vue de la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La communion, littéralement la koinonia. C'est un mot important. Il ne va apparaître qu'à un autre endroit dans la lettre, la première aux Corinthiens. Il interviendra quatre fois dans la deuxième aux Corinthiens, mais dans la lettre aux Corinthiens, il n'intervient que deux fois. Ici, Dieu vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, et puis il interviendra précisément dans le chapitre qui traite du repas du Seigneur, la coupe que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Donc, ce terme, quand nous disons dans une célébration, je vais à la communion, je vais recevoir la communion, eh bien, nous vient directement de la première aux Corinthiens. Et ici, il est introduit la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que la Torah a traduit « avec son Fils », mais de soi l'expression « la communion de son Fils », ça reste assez large. On peut comprendre la communion avec son Fils. La communion qui nous vient de son Fils. C'est lui qui nous aide peut-être à être en communion et avec lui et avec les autres. Parce que justement, l'enjeu, c'est de rester dans cette communion plutôt que de se diviser. Et là, je passe avec le verset 10, de l'action de grâce à la manière dont Paul va droit au but sur le sujet, un des aspects de la vie des Corinthiens qui le préoccupe. Verset 10. Cependant, je vous exhorte, c'est toujours le verbe de la paraclèse, de l'encouragement, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, revient ici, le même nom qui a été évoqué dans l'adresse, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce soit la même chose que vous disiez tous, afin qu'il n'y ait pas parmi vous de déchirure, littéralement des schismes, schismata, des fractions, qu'il n'y ait pas parmi vous de déchirure, mais que vous ne cessiez pas d'être tout à fait accordés dans le même entendement et dans le même avis. En effet, il me fut rendu évident au sujet de vous, mes frères, par ceux de chez Chloé, que des rivalités parmi vous, il y en a. Et par là, je veux dire ceci. Que chacun de vous dit, moi, j'appartiens à Paul. Littéralement, je suis de Paul. Moi, j'appartiens à Paul. Tandis que moi, d'Apollos, tandis que moi, à Képhas, tandis que moi, j'appartiens au Christ. Est-ce qu'il a été partagé, le Christ ? Serait-ce Paul qui fut crucifié pour vous ? Ou serait-ce au nom de Paul que vous fûtes baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ce que ce n'est personne de vous que je baptisais, sinon Crispus et Caius, en sorte que quelqu'un ne puisse pas dire que c'est à mon nom, à moi, que vous fûtes baptisé. Cependant, je baptisais aussi la maison de Stéphanas. Mais pour le reste, je ne vois pas quelqu'un d'autre que je baptisais. En effet, il ne m'envoya pas le Christ baptisé, mais plutôt évangélisé. Non pas dans une sagesse de parole, afin que ne soit pas vidée la croix du Christ. Je commande brièvement. Je vous exhorte, Paul vient de rappeler qu'on était appelé à la communion de son Fils. Bien, je vous exhorte dès lors, par le nom de notre Seigneur, et bien que vous ayez même pensée, qu'il n'y ait pas de déchirure entre vous. Donc, Paul exhorte à l'unité dans la communauté. Et il leur donne la raison. Il me fut rendu évident, ce n'est pas un vague petit bruit qu'il a entendu, il me fut rendu évident à votre propos, qu'il y a des rivalités parmi vous, et quel est ce type de rivalité, quelles sont ces rivalités, c'est qu'on prend parti. Vous vous souvenez qu'à Corinthe, il y avait des écoles de philosophes, et les uns étaient les disciples fervents de tel philosophe, les autres les disciples fervents de tel autre, etc. Et il y a peut-être une tentation du même type, il y en a qui ne jurent que par Apollos, de nos jours, moi je ne vais à la messe qu'à cet endroit-là, parce que là au moins le prêtre, c'est chouette, etc. Tandis que l'autre du village à côté, non. Et Paul répond, est-ce que le Christ est partagé ? Alors, dans ce qui est rapporté, chacun de vous dit, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Képhas, moi j'appartiens au Christ. Est-ce que la quatrième expression est encore parmi les opinions de prise de parti ? Comme s'il y avait un parti du Christ à côté du parti de Paul, d'Apollos et de Képhas. C'est peut-être déjà la réponse de Paul. Vous dites, j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos, j'appartiens à Képhas. Et Paul répond, moi j'appartiens au Christ. C'est comme ça qu'on peut comprendre, c'est une manière légitime de comprendre cette affirmation. Et en fait, et le Christ, est-ce qu'il a été partagé, divisé entre plusieurs membres, en plusieurs parties, selon le terme grec. Serait Paul qui fut crucifié pour vous ? Bien, c'est ni Paul, ni Képhas, ni Apollos, bien sûr, il n'y en a qu'un qui a été crucifié pour vous, et c'est celui-là la source du ministère de tous les autres, selon leur richesse de personnalité et leur mission propre est variée. Mais Paul ramène à l'unique figure du Christ. Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Serait-ce au nom de Paul qui vous a été baptisé ? Il vient d'assister deux fois solennellement sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben non, on sait bien que c'est au nom du seul Seigneur Jésus qu'il m'a été baptisé. Et je rends grâce à Dieu, et là Paul fait un petit développement en disant que ce n'est pas sa mission première que de baptiser. Lui, c'est d'évangéliser, de porter le kérigme, et puis dans sa foulée, recueillant les fruits de la première évangélisation, et bien d'autres vont s'adonner au ministère du baptême. Et lui, sa responsabilité première, c'est d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle. Son ministère est celui de la parole. En fait, il ne m'envoya pas le Christ baptisé, mais plutôt évangéliser, non pas dans une sagesse de parole, comprenons les paroles selon la sagesse du monde, on va le comprendre après, pour que ne soit pas vidée la croix du Christ. On identifie ici volontiers ce qu'on appelle la proposition, l'énoncé de base qui préside à l'ensemble de ces chapitres 1 à 4, qui vont se centrer, après l'adresse, l'action de grâce et l'entrée en matière, qui vont se centrer précisément sur la croix du Christ. Il va faire valoir que la parole de l'Évangile est une parole qui se confirme au mystère de la croix du Christ, et que s'il est mort pour nous, ce n'est pas pour que nous nous divisions autour de lui, mais plutôt pour faire notre unité. L'envoyer plutôt évangéliser, non pas dans une sagesse de parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, vidée. C'est un terme qui reviendra, nous le verrons, aussi dans le chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide est votre foi, vide est notre prédication. Et ici, l'enjeu, c'est de ne pas vider de sa force, de sa substance, de sa richesse, le mystère de la croix du Christ. Je passe au chapitre 2. En effet, la parole, entendons la parole de la croix. Pour ceux qui se perdent, c'est une folie qu'elle est. Tandis que pour ceux qui sont sauvés, pour nous, c'est une puissance de Dieu qu'elle est. En effet, il a été écrit, « Je perdrai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je l'invaliderai. » Où y a-t-il un sage? Où y a-t-il un scribe? Où y a-t-il un questionneur de ce siècle-ci? Est-ce qu'il n'a pas rendu folle, Dieu, la sagesse du monde? En effet, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde ne connut pas par la sagesse Dieu, il estima bon Dieu par la folie du message proclamé, de sauver ceux qui ont foi. Puisque des Juifs, pour leur part, ce sont des signes qu'ils réclament. Des Grecs, pour leur part, c'est une sagesse qu'ils questionnent. Et nous, cependant, nous proclamons un Christ qui a été crucifié. Pour des Juifs, un Christ qui est un scandale, un objet de chute, tandis que pour des païens, des nations, un Christ qui est une folie. Pour eux, cependant, ceux qui sont appelés, à la fois des Juifs et des Grecs, un Christ qui est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Vous sentez que Paul pose l'opposition paradoxale, sagesse, folie, puissance, faiblesse. Ce qui apparaît aux yeux du monde dans le mystère de la croix, pure faiblesse et folie, est en réalité le lieu où la puissance d'amour de Dieu se manifeste et où sa vraie sagesse s'exerce. Alors nous voyons que Paul prend en compte les deux composants de la communauté de Corinthe. Il y a sans doute une majorité de croyants venus du monde non-juif, mais il y a aussi des juifs. Il dit la croix du Christ pour le juif, qui volontiers dans la Bible reçoit des signes de Dieu, voire réclame des signes, eh bien, c'est un signe qui apparaît scandaleux, qui fait obstacle. Ce n'est pas un signe de puissance de Dieu, au contraire. Et pour une mentalité grecque, je dis au fil, c'est une folie pour la raison. Et cependant, pour ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, dans leur origine, les judéo-chrétiens, pagano-chrétiens, comme on dit, eh bien, c'est là que nous sommes sauvés. Verset 21, il estima Dieu, bon Dieu, par la folie du message proclamé, c'est le terme du kérigme, dans le fait, de sauver ceux qui ont foi. Il s'agit d'entrer par la foi dans ce mystère. Et il va plus loin faire comprendre que ce n'est pas accessible à l'homme laissé à sa seule force. Il lui faut l'esprit qui éclaire la foi. Je remonte un peu plus haut, verset 19. à la citation que fait Paul du prophète Isaïe, dans la version grecque, où Dieu dit « Je perdrai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je l'invaliderai. » Comme si, non seulement Dieu prenait acte que la prétendue sagesse des hommes dévie, mais que, en quelque sorte, il amenait les hommes dans cette impasse à comprendre que leur prétendue sagesse, eh bien, n'accède pas au mystère de Dieu. Et que lui-même, Dieu, s'arrange pour faire comprendre que la sagesse trop humaine, eh bien, n'est rien à côté de sa sagesse à lui. Je perdrai la sagesse des sages, comprenant la sagesse des intelligents de ce monde. Et l'intelligence des intelligents, je l'invaliderai. Souvenez de la parole de Jésus dans l'Évangile. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé cela, non pas aux sages et aux savants, mais aux petits. Alors, grâce à Dieu, il y a quand même des saints comme saint Thomas et tant d'autres qui sont savants, mais ils sont plus saints encore que savants. Ils sont savants tout en ayant l'attitude des petits qui acceptent d'entrer dans ce mystère de folie de la croix. Et il y revient à la fin du verset 20, « Est-ce que Dieu n'a pas rendu folle la sagesse du monde ?» Donc on voit comme l'initiative de Dieu pour manifester l'impasse dans laquelle se trouve la prétendue sagesse du monde. Alors, je prends un instant pour que vous compreniez peut-être un peu mieux cela, la page 19 que vous aviez reçue, un petit schéma qui reprend ce verset. C'est le verset 21, le chapitre 1, verset 21, donc c'est le deuxième petit bloc médian de cette page, la page 19. Je vous ai remis et disposé, dans l'ordre exact du texte grec, ce verset 21. Puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde ne connut pas par la sagesse de Dieu, alors, il estima bon Dieu, par la folie du Kéri, de sauver ceux qui ont foi. Alors, la première mention de la sagesse, la Torah aussi, comprennent souvent dans le sens suivant, ils traduisent, puisqu'en effet le monde, ils vont d'emblée chercher le sujet, puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez, ils reprennent les termes, mais remet dans un ordre différent la phrase, c'est qu'il ne respecte peut-être pas tout à fait son sens. Donc la Torah dit, le monde, par le moyen de la sagesse mondaine, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Bon, ça peut se comprendre. Mais la Torah et aussi mettent quand même en note qu'on peut comprendre, puisque par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde n'a pas connu par sa sagesse Dieu. Autrement dit, dans la foulée des citations, je perdrai la sagesse des sages, Dieu a rendu folle la sagesse du monde, bien, ce que Paul voudrait dire, c'est que c'est déjà une disposition de la sagesse de Dieu qui fait que le monde n'accède pas par ses seules forces limitées et pécheresses au mystère de la croix. Puisque dans la sagesse de Dieu, comme on peut le comprendre, c'est déjà une disposition de la sagesse de Dieu de faire que au monde soit révélé son aveuglement. Le monde n'a connu pas par la sagesse de Dieu. Alors, il estime à bon Dieu, par la folie du Kéri, de sauver ceux qui ont foi. Il faut que Dieu ait l'initiative. Puisque l'homme, par les seules forces de sa sagesse, n'arrive pas à accéder à ce mystère, il faut que Dieu le révèle, par quoi ce terme, hein, et surtout, en se révélant, sauve ceux qui ont foi. Et puis, je vous ai redisposé les versets 1, 22 à 23. Vous voyez comment Paul écrit, c'est pour nous donner un aperçu de la rigueur quand même de construction de certaines de ces phrases. Des Juifs, pour leur part, des signes, ils réclament. Des Grecs, pour leur part, ils sagessent une question. Nous, cependant, nous proclamons un Christ qui a été crucifié. Pour des Juifs, en pied de chute, pour des païens, une folie. Pour eux, cependant, ceux qui sont appelés, à la fois des Juifs et des Grecs, un Christ qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Vous voyez comment j'ai mis des flèches et des oppositions, comment le tout s'articule sur ce paradoxe de la croix du Christ qui est, au-delà des apparences, vraie puissance et vraie sagesse de Dieu. Le verset suivant encore le met sous forme de chiasme, c'est-à-dire une disposition croisée dont les termes s'opposent. Un Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et l'œuvre folle de Dieu aux yeux du monde, l'œuvre faible de Dieu aux yeux du monde. Après avoir ainsi posé, si vous voulez, ce cadre d'une sagesse paradoxale dans le mystère de la croix, puisque au centre, nous nous proclamons un Christ qui a été crucifié, eh bien, Paul va en développer alors l'écho dans la constitution même de la communauté de Corinthe. Le verset 25, l'œuvre folle de Dieu est plus sage que les hommes, l'œuvre faible de Dieu est plus forte que les hommes. En effet, regardez votre appel, frère. Est-ce qu'il y a de nombreux sages selon la chair? Est-ce qu'il y a de nombreux puissants? Est-ce qu'il y a de nombreux hommes de haute origine parmi vous? Mais plutôt, au contraire, ce sont les réalités folles du monde que se choisit Dieu, afin qu'il couvre de honte les sages. Et ce sont les réalités faibles du monde que Dieu se choisit, afin qu'il couvre de honte les réalités fortes. Et ce sont les réalités sans origine du monde, celles qui ont été tenues pour rien, que se choisit Dieu, celles qui n'existent pas, afin que celles qui existent, il les rende inopérantes, en sorte que nulle chair n'ait matière à se vanter en présence de Dieu. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé, ça, non pas au sage et puissant, mais au petit. Nulle chair n'a matière à se vanter dans son origine, sa prétendue sagesse, etc., en présence de Dieu. Ce passage est retenu pour la fête de Sainte Bernadette de Lourdes. Si vous connaissez un peu la vie de Bernadette, vous dites que c'est bien adéquat. Je continue. Cependant, c'est à partir de lui que vous existez dans le Christ Jésus, lui qui devint sagesse pour nous, de la part de Dieu, à la fois justice et sanctification, et rédemption, les termes qui vont être développés dans la lettre aux Romains, qu'on trouve déjà chez Jérémie, afin qu'il en soit selon ce qui a été écrit, celui qui a matière à se vanter, que ce soit dans le Seigneur qu'il ait matière à se vanter. Donc, Paul prend acte que dans la communauté de Corinthe, il y a beaucoup de gens d'origine modeste, sans doute. Eh bien, Dieu daigne les choisir et se manifester à eux. Ou bien, on peut comprendre le verset 26, on pourrait le traduire d'une autre manière, qui donne aussi un bel effet de sens. En effet, regardez, frère, est-ce qu'il n'y a pas de nombreux sages selon la chair, de nombreux puissants? Est-ce qu'il n'y a pas de nombreux hommes de haute origine? Peut-être dans votre communauté déjà et dans le monde en général. Eh bien, ce n'est pas cela, de toute façon, que Dieu va choisir en premier lieu. Il va choisir les réalités faibles du monde, la prédilection de Dieu pour les petits. Donc, considérez votre communauté et voyez que, déjà parmi vous, Dieu daigne se révéler peut-être en premier lieu au plus simple. Et donc, dans les assemblées, dans les repas, etc., ne faisons pas valoir les places d'honneur aux yeux du monde, etc., mais apprenons à nous respecter, etc. Puis, chapitre 2, Paul fait comprendre que le langage qu'il a adopté se conforme au mystère de la croix. Donc, il a fait contempler le mystère de la croix, comment il est déjà en jeu dans la composition même de la communauté de Corinthe, et puis, maintenant, dans l'attitude de l'apôtre. Il avance. « Moi aussi, étant venu auprès de vous, frères, je vins non pas avec une autorité supérieure de parole ou de sagesse, pour vous annoncer ouvertement le mystère de Dieu, car je ne jugeais pas de savoir quelque chose parmi vous, sinon Jésus-Christ est précisément Jésus-Christ crucifié. Moi aussi, c'est dans une faiblesse, dans la crainte, un tremblement considérable que je me rendis présent auprès de vous. Et ma parole et mon message proclamé le furent, non pas dans une force persuasive de sagesse, mais plutôt dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas dans une sagesse d'homme, mais plutôt dans une puissance de Dieu. » Paul est en train de dire, eh bien, j'ai adopté la manière de parole qui convient. Non pas une parole prestigieuse, persuasive, selon la sagesse humaine, mais conforme au mystère de la croix. Souvenez-vous que Paul a abouti à Corinthe après l'échec de sa prédication à Athènes, où il avait tenté de parler aux philosophes d'Athènes et on lui avait dit « On t'entendra sur la résurrection de notre foi ». Donc arrivé à Corinthe, il fait valoir peut-être d'abord le mystère de l'humilité du Christ, de sa croix, etc. Et puis c'est plus loin dans la lettre qu'il va nous parler de la résurrection. Et cependant, lorsqu'il dit « puissance de Dieu », hein, et une démonstration d'esprit et de puissance, bien sûr, il a déjà en tête la puissance aussi de la résurrection. Esprit, pneuma et puissance, dynamis, sont régulièrement associés. Et dès lors, Paul va avancer dans la suite du chapitre en valorisant le rôle de l'esprit. Qu'est-ce qui va faire comprendre cette apparente faiblesse est en réalité puissance de Dieu, cette folie est en réalité sagesse de Dieu, bien c'est l'esprit. Je suis au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous parlons parmi les parfaits, et même une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, de ceux qui sont rendus inopérants, mais plutôt nous parlons une sagesse de Dieu en forme de mystère, etc. Paul va faire comprendre alors que cette sagesse, ça va être l'insistance des versets 10 à 16, est une sagesse qui est révélée par l'Esprit. À nous cependant, saute au verset 10, Dieu révéla cela par l'Esprit. Puis, toute une réflexion sur l'Esprit, en effet, l'Esprit c'est toute chose qu'il scrute. Qu'est-ce qui connaît les choses de l'homme sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et de même, les choses de Dieu, personne ne les connaît sinon l'Esprit de Dieu. Alors, qui va connaître, qui va avoir accès à ce qui est dans l'Esprit de Dieu? Eh bien, il est communiqué par Dieu à l'homme. Nous, cependant, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, verset 12, mais plutôt l'Esprit qui vient de Dieu. Cet Esprit de Dieu, Dieu ne le garde pas pour lui, il le fait connaître. Il l'a communiqué, afin que nous sachions les choses par Dieu, de Dieu qui nous furent données en grâce. Et c'est précisément pourquoi nous parlons à partir de ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé, et non pas à partir d'une sagesse humaine, etc. Et nous pouvons interpréter les choses selon l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'objet des versets 6 à 16, que je résume. Valoriser le rôle indispensable de l'Esprit de Dieu qui se communique à l'homme pour qu'il puisse entrer dans cette sagesse paradoxale de la croix. Mais il y a ceux qui sont en face de Paul. Il s'agit qu'eux aussi grandissent dans l'esprit, deviennent de plus en plus des êtres spirituels pour comprendre cela. Mais Paul alors déplore qu'ils soient encore bien charnels. Et là, il oppose, il fait valoir le binôme esprit et chair au sens de vue trop simplement encore à hauteur humaine. Verset 2. Maintenant, vous ne pouvez pas encore accéder à la nourriture solide que je voudrais vous donner. Vous êtes encore des nourrissons dans le Christ parce que vous êtes encore trop charnel. Et dès lors que parmi vous, il y a rivalité et jalousie, eh bien, c'est le signe que vous êtes encore charnel et que vous marchez encore trop selon l'homme, selon l'esprit du monde. En effet, quand quelqu'un dit « Moi, j'appartiens à Paul, un autre à Apollos », est-ce que vous n'êtes pas simplement des hommes, vous ne comportez pas simplement encore selon les réflexes spontanés. Donc Paul, voyez comment il avance dans sa pensée. Il pose le mystère de la croix, il réfléchit par qui va-t-il être révélé, par l'esprit. Le contraire de l'esprit, c'est l'attitude encore trop charnelle, etc. Et il englobe ce qu'il a dit précédemment, mais l'enrichit de plus en plus. Au chapitre 3, Il va situer les croyants dans l'œuvre trinitaire. Donc ici, j'ai lu en détail le début. Ici, je souligne les lignes de force, simplement. Chapitre 3, il va nous situer dans l'œuvre trinitaire. Il a parlé d'esprit. Il va revenir à Dieu et au Christ. Je pointe trois expressions au verset 11 du chapitre 3. Un autre fondement, personne ne peut en poser à côté de celui qui a été posé, celui sur lequel est Jésus-Christ. Paul est en train d'utiliser la métaphore de la construction. Eh bien, Jésus-Christ, c'est le fondement. Puis, au verset 16, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes sanctuaire de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite sa maison en vous. Donc le fondement, c'est le Christ, Dieu est le sanctuaire, mais vous êtes aussi le sanctuaire de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit, voilà la troisième personne de la Trinité qui arrive, l'Esprit de Dieu habite sa maison en vous. Alors que personne ne s'abuse lui-même, etc., que personne ne se gonfle d'orgueil, donc ce que vous l'êtes grâce à l'action conjointe du Fils, du Père et de l'Esprit, si je résume trop sommairement un aspect de ce passage. Et au chapitre 4, Paul va commencer à développer l'attitude, il a commencé à la mentionner en disant « Je suis venu parmi vous, non pas avec une parole prestigieuse, mais en crainte, tremblement, dans la faiblesse », il va développer justement l'abaissement des apôtres dans ce chapitre 4. Conformément au mystère de la croix. Frères, si je dis ces choses en figure, en les appliquant à moi-même, à Apollos, à cause de vous, c'est que vous appreniez à n'être pas gonflés de suffisance au mépris de l'autre. Déjà, vous ne cessez d'être rassasiés, verset 8. Déjà, vous avez commencé à être riches. Et nous aussi, nous espérons régner avec vous. Mais alors, au verset 9, j'estime que nous, les apôtres, Dieu nous démontra en dernier comme destinés à la mort, afin, à savoir que nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et même pour les anges et pour les hommes. Nous sommes devenus fous à cause du Christ. Vous, cependant, gens avisés dans le Christ. Nous, faibles, et cependant, vous, forts, vous, des gens couverts de gloire, et nous, privés d'honneur. Jusqu'à présent, nous, les apôtres, nous avons eu faim, soif, à peine vêtus, souffletés, sans gîte, nous sommes à labeur, travaillant de nos propres mains. Si nous sommes querellés, nous bénissons. Si nous sommes persécutés, nous endurons. Si nous sommes calomniés, nous consolons. C'est comme des rejets, des déjections du monde que nous sommes devenus. Et le rebut de tout jusqu'à présent. Bon, Paul va fort pour dire, je dirais, les afflictions, les rejets dont il a été l'objet, souvenez-vous de son parcours qu'il avait amené à Corinthe, et en faisant comprendre que l'apôtre lui-même, il le perçoit, est configuré à ce mystère de la croix du Christ et rejeté par tous, mais pour les biens des autres. En leur annonçant en vérité le mystère de la croix du Christ, il va en réalité eux, les fortifier, les introduire au règne du Christ, leur donner de devenir forts dans la foi, de commencer à partager sa gloire. Comme toujours, Paul résonne en articulant les paradoxes. Voilà un peu pour donner un aperçu de l'accent majeur de ces quatre premiers chapitres. Alors, comme je vois que le temps s'écoule, nous allons passer au chapitre 15. Il y aurait bien de beaux passages à lire dans la lettre aux Corinthiens, mais il faut avancer. Je passe donc au chapitre 15. Je vous invite à avoir sous les yeux la feuille numéro 20 et 21 que je vous avais donnée. En haut de la page 20, de vos feuilles, j'ai repris pour mémoire une série d'expressions qui attestent comment la perspective de la venue du Seigneur, qui a tellement marqué les deux lettres aux deux premiers aux Thessaloniciens, eh bien, a déjà été rappelé de manière récurrente dans le fil de la première aux Corinthiens. Je viens au chapitre 15 lui-même. Le petit schéma que vous avez dans la partie inférieure de la page 20 et le texte repris de la traduction d'Hostie disposé à la page 21 se correspondent. Vous voyez le petit pavé, versets 1 à 11, et le pavé d'entête sur la pavé de texte. Et puis les deux colonnes respectives, à gauche et à droite, correspondent à la disposition que j'ai adoptée pour le texte lui-même sur votre page 21. Je commence par lire d'abord l'introduction du chapitre 15. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez bon, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous retenez en quels termes je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu cela même que j'avais reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été relevé le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore, mais quelques-uns sont morts, se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avortant. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai peiné, plus que tous, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, moi ou eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Paul commence par rappeler le terrain sur lequel ils sont d'accord. Ils ont adhéré au kérygme annonçant la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand Paul dit « je vous rappelle », c'est un terme pour « je vous fais connaître », c'est-à-dire entrer dans l'intelligence plus profonde. Ce que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Vous voyez comment joue le vis-à-vis entre les évangélisateurs et les évangélisés qu'on a déjà rencontrés. Je vous ai annoncé et vous avez reçu. Vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes, lequel je voulais annoncer. De même, au verset 11, à la fin, il va refaire jouer ce vis-à-vis. Bref, moi ou eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous, de votre côté, vous avez cru. Alors, que rappelle Paul entre les deux, entre le début et le dernier verset de ce petit paragraphe? Paul rappelle qu'il s'inscrit dans une tradition. Il l'a fait à propos des paroles de la scène. Je lui ai transmis ce que j'avais reçu du Seigneur de la tradition au chapitre 11. Il le fait ici à propos de la résurrection. Je vous ai transmis ce que moi-même j'avais reçu. Et là, on a le plus ancien noyau du kérygme chrétien en son essence, c'est-à-dire le noyau de la proclamation évangélique. Christ mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli, relevé le troisième jour selon les Écritures, et puis de là, on passe aux apparitions. Et Paul tient à se situer dans la lignée, dans le sillage de ceux qui ont été bénéficiaires d'apparitions. Certes, comme le plus petit de tous, l'avorton, comme on dit avec une image vive. Hein, moi aussi, le plus petit, et car je suis le moindre des apôtres, et en même temps, il est bien conscient que par grâce de Dieu, il y assiste, tout en étant le moindre au départ, parce qu'il a persécuté, eh bien, il mérite lui aussi le titre d'apôtre. Je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et apôtre. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il m'a donné d'être un apôtre même, qui est à la peine, au labeur apostolique. J'ai peiné, c'est toujours ce même terme qui désigne le labeur apostolique. J'ai peiné plus que tous. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. chaque fois, Paul, lorsqu'il a une affirmation, on pourrait dire, tiens, il se met beaucoup en avant, refait valoir, si j'ose dire cela, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ce travail en moi. C'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi, pour le dire avec d'autres termes. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec. Donc, il repose ce fondement, nous sommes bien d'accord sur la foi en la résurrection du Christ. Et moi, le dernier bénéficiaire des apparitions, sous-entendu, j'en ai été témoin. Et sa force de ressusciter agit en moi, sous-entendu, de telle sorte que, même en étant le dernier des apôtres, eh bien, je suis ce que je suis. Or, et là vous voyez qu'il va y avoir deux volets dans l'argumentation. Or, et c'est là le problème, si l'on proclame que Christ a été relevé d'entre les morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? La question est là. On ne peut pas dire « je crois que Jésus est ressuscité » et ne pas dire « je crois que nous ressusciterons en lui ». Les deux vont de pair. Et là, il va argumenter. On va avoir un passage d'argumentation, c'est versets 12 à 19. Le fonctionnement d'ensemble du chapitre, on le reprendra la fois prochaine, mais je lis ces versets 12 à 19 et je les commente brièvement à la faveur d'un petit tableau que je vous ai mis à la page 22. Mais nous les lisons d'abord. Si l'on proclame que Christ a été relevé d'entre les morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'a pas été relevé. Et si Christ n'a pas été relevé, vide alors, et notre proclamation vide aussi votre. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a relevé le Christ, alors qu'il ne l'a pas relevé, s'il est vrai que les morts ne sont pas relevés. Car si les morts ne sont pas relevés, Christ non plus n'a pas été relevé. Et si Christ n'a pas été relevé, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Vous sentez, Paul, il a l'air de tourner un petit peu en rond, là. Christ ressuscité, les morts ressuscités, oui, non. Et en tout cas, il fait valoir que si on ne croit pas en la résurrection des morts, ben, alors, si notre espoir est pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Alors voyons comment il ne tourne pas en rond, hein, les apparences. Prenons le petit schéma que vous avez à la page 22, où j'ai remis ces versets 13 à 18 que je viens de vous lire, en soulignant l'ordre du raisonnement. Il y a trois vagues de raisonnement qui sont des syllogismes. Si ceci, alors cela. Et si cela, alors, conclusion. Si, le verset 13 à 14, c'est pris le noyau de l'argument. Si pas de résurrection des morts, Christ n'est pas relevé. Or, si Christ n'est pas relevé, alors, notre kérigme, le point de vue des évangélisateurs, est vide, et votre foi, le point de vue des évangélisés, est vide. Puis il reprend. Et il développe le point de vue des évangélisateurs. Il a dit, hein, en 14b, notre kérigme. Et il commence par développer ça. Si vraiment les morts ne sont pas relevés, il, comprenons Dieu, n'a pas relevé le Christ. Or, nous avons affirmé qu'il a relevé le Christ. Alors, nous l'avons affirmé, c'est un témoignage contre Dieu. Et nous dirions au contraire de ce qu'il a fait. Nous aurions affirmé contre Dieu. Et nous sommes trouvés faux témoins de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection des morts, cela falsifie le kérigme. Il y a deux choses à propos de ces trois versets. D'abord, si vous regardez le lettrage, vous voyez que j'ai remis la phrase de Paul dans l'ordre inverse qui fait comprendre son raisonnement, en la relisant à partir de la fin. 15e, 15d, 15c, 15b, 15a. Je suis remonté dans le verset 15 pour montrer comment, à l'envers, il a un raisonnement du même type que les deux autres, si on le remet dans l'ordre. si vraiment le monde s'en parle lui, alors. Et, deuxième très singulier, c'est qu'il y a un troisième personnage qui est arrivé ici, c'est Dieu. On pourrait se dire, on n'arrête pas de tourner dans le vis-à-vis entre Christ ressuscité des morts et les croyants. Eh bien, il y a un personnage central qui apparaît là. Si vraiment les morts ne sont pas relevés, alors Dieu n'a pas relevé, parce que l'auteur de ce relèvement, de cette résurrection, c'est quand même Dieu son Père. Et nous avons affirmé de Dieu qu'il a relevé le Christ. Alors, là c'est grave parce que c'est un faux témoignage contre Dieu lui-même. Pas simplement une négation de la résurrection du Christ, mais un faux témoignage contre celui qui l'a relevé. Troisième vague, si les morts ne sont pas relevés, Christ n'est pas relevé. Si Christ n'est pas relevé, alors, prends l'autre point de vue. Il avait annoncé en 14C, votre foi est vide. Eh bien, il y revient. Alors, votre foi est insensée. Vous restez dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ ont péri. C'est-à-dire ceux qui se sont endormis en mettant leur foi dans le Christ, s'il n'est pas ressuscité, cette foi et cette espérance était ruineuse. Alors, dans quel sens va le rapport qu'il établit si par de résurrection des morts, Christ n'est pas relevé? Vous connaissez l'exemple type du syllogisme. Socrate est un homme, or tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Ou bien on peut l'énoncer, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On prend une loi générale, on prend un cas particulier qui tombe sur cette loi générale, et la conclusion, ben, c'est que le cas particulier, on y applique la loi générale. Est-ce que c'est comme ça que Paul raisonne? Est-ce qu'il veut dire, il faut d'abord établir une loi générale de la résurrection des morts pour croire au cas particulier possible du Christ? C'est pas tout à fait ça. Parce qu'il va continuer dans le texte, verset 20, « Mais non, Christ a été relevé d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. » Les Juifs avaient déjà une espérance, une bonne partie du judaïsme, notamment les pharisiens, croyaient déjà à la résurrection des morts. Mais ils y croyaient, ils l'espéraient, comme la résurrection de tous, et seulement au dernier jour. Et voilà qu'au cœur de l'histoire, il y a un cas singulier, et sans attendre la fin de l'histoire, qui nous a relevé d'entre les morts. Et donc c'est comme si Paul nous disait, la résurrection du Christ, c'est pour ça qu'il l'appelle prémisse, c'est comme le fondement de ce que le judaïsme espérait, eh bien, va bien se réaliser. C'est la condition de possibilité que se réalise cette espérance qu'on avait de la résurrection de tous. Parce que la résurrection de chacun de nous, ça sera d'être greffé sur la résurrection du Christ, déjà advenu au cœur de l'histoire. Et c'est lui, le cas singulier, qui fonde l'espérance pour tous de ressusciter. C'est un peu dans ce sens-là que va le... Et on va voir dans la suite du texte que Paul raisonne. Donc vous voyez ce paragraphe qui a l'air, quand on lit une première fois, on ne s'y retrouve pas trop dans « si ceci, alors cela », il a l'air de tourner en rond, mais ce paragraphe des versets 13 à 18 est quand même très construit. Il commence à nous faire comprendre qu'il faut tenir ensemble résurrection du Christ et résurrection des morts, et que si on ne fait pas cela, si on se place du point de vue du kérigme, on le réduit à rien, et si on se place du point de vue de la foi qui adhère à ce kérigme, on la ruine tout autant. En effet, mais selon un type de raisonnement qui est quand même plutôt de type cartésien, selon un esprit philosophique occidental, c'est des syllogismes. Dans le second volet du chapitre, il va argumenter d'une manière tout autre, plus juive, plus rabbinique, à partir des citations scripturaires. Et c'est assez fascinant de voir comment en un seul chapitre, on a les deux potentialité de l'esprit de Paul, à la fois capable de raisonner à la gréco-romaine, pour faire bref, et capable d'argumenter vraiment à la juive de manière magistrale. Dans la première partie du chapitre sur le fait de la résurrection, et puis nous le verrons la fois prochaine, je vais m'arrêter là, sur le comment de la résurrection. Parce que la colonne de droite va répondre à cette question, parce que quelqu'un va poser la question, il va bien croire que les morts ressusciteront, mais comment ressusciteront-ils? Avec quel corps? Non, c'est les deux volets du chapitre. Un peu de la même manière que dans l'Épître aux Thessaloniciens, il avait déjà, en beaucoup plus bref, sobre, posé le fait de la résurrection, d'une part, et puis il y avait la question du moment. Il va reprendre ici aussi. Oui, mais à quel moment? Et donc il vient comme un voleur, et donc la meilleure manière de s'y préparer, c'est d'être toujours dans l'attente, vigilante, etc. Voilà pour donner un aperçu du début de ce chapitre 15. J'y reviendrai, je dirais, 10-15 minutes au début du cours suivant. Je dégagerai aussi trois fils conducteurs qui permettent de percevoir l'unité de la première lettre aux Corinthiens à travers les divers sujets traités. C'est ce que je vous ai donné sur une feuille numérotée 23. Vous pourrez déjà la lire. Nous la relirons la fois prochaine. Et puis après, nous passerons à la deuxième aux Corinthiens. Voilà, un aperçu. Dont vous avez reçu les feuilles de route déjà pour cette fois-ci. Je vous remercie de votre attention. Donc ce que nous avons fait, c'est nous centrer sur les deux passages plus doctrinaux de la première aux Corinthiens, le mystère de la croix du Christ, et sommes entrés déjà un peu dans sa réflexion sur la résurrection des morts.